me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Soumission aux lois ou obéissance à un rituel pour garantir l'ordre social? Que pouvons-nous apprendre du ritualisme, de ces formes d'organisation des rapports sociaux parmi les plus anciennes? Que nous enseigne le cas du Burkina Faso et de l'hétérogénéité de la loi en Afrique? Qu'est-ce que l'école de la loi en Chine? Alain Supio, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, est très attaché à l'approche transnationale et transdisciplinaire des questions posées par la mondialisation et la révolution numérique qui bouleversent aujourd'hui nos sociétés et nos institutions. Aussi nous propose-t-il, dans le cadre de sa série consacrée au passage du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres, de nous pencher sur l'école des lois dans la culture juridique chinoise. Penser un ordre en termes de loi n'a en effet rien d'universel, explique-t-il. Dans de nombreuses sociétés, c'est l'observance de rituels qui assure le bon ordre et non l'obéissance à des lois. Alain Supio ouvre sur l'exemple des difficultés de traduction rencontrées dans de nombreuses langues africaines pour incorporer cette loi arrivée avec la colonisation. Si le cas chinois est particulièrement intéressant, souligne-t-il encore, c'est parce que les institutions impériales sont nées d'un conflit, puis d'une combinaison du ritualisme et du légalisme. Cette symbiose est à l'œuvre dans de nombreux traités classiques chinois sur l'art du gouverner, qui se sont efforcés de tempérer par le ritualisme la dimension proprement totalitaire du légisme. Et aujourd'hui encore, le légisme continue de percer sous le vernis confucianiste qui enduit l'économie socialiste de marché de la République populaire de Chine. L'approche d'Alain Supio invite donc à ouvrir le regard. Dans la version publiée de son cours chez Fayard, le juriste remarque que chaque civilisation prête spontanément à ses catégories de pensée une universalité qu'elles n'ont pas. Les Occidentaux y sont d'autant plus enclins que grâce à leur technoscience, ils ont dominé depuis 3 siècles le reste du monde. Cette période est en train de se clore, nous dit-il encore, il leur faut désormais compter avec d'autres manières de concevoir l'organisation des sociétés humaines. Face aux déclinistes, n'y a-t-il pas dans les rencontres et les dialogues un lieu pour innover et répondre aux défis de la globalisation? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supio le 28 février 2013, autre point de vue sur la loi, ritualisme et légalisme.
On va faire une petite excursion en Chine, mais dans l'histoire des institutions chinoises, dans une période assez reculée, celle de la fondation même de l'Empire. Alors, ce chapitre, j'ai intitulé « Point de vue chinois sur le gouvernement par les lois, ritualisme et légalisme ». Si je m'autorise ce petit passage par la Chine, c'est pour nous aider à comprendre que penser un ordre en termes de loi, un ordre humain, institutionnel, n'a rien d'universel. Dans de nombreuses sociétés, on pourrait même dire sans doute anthropologiquement, historiquement, dans la plupart des sociétés, ce n'est pas la soumission aux lois qui est la clé d'un ordre social, mais c'est l'observance de rituels. C'est l'observance de rituels qui assure le bon ordre et non l'obéissance à des lois. D'où les difficultés de traduction rencontrées par exemple dans de nombreuses langues africaines, qui étaient des sociétés qui marchent au rituel, pour incorporer cette notion de loi qui est arrivée avec la colonisation. J'en dis un mot et nous nous arrêterons après ce bref introduction africaine. Je m'appuie ici sur une analyse de Madame Bagnou-Liberski qui concerne les langues voltaïques. Ces langues connaissent d'un côté des interdits, des observances rituelles qui sont hétéronomes et échappent à la volonté humaine. C'est ce qu'en moré on appelle kiksu. Et d'autre part, des édits, des paroles humaines, qu'en moré on appelle noré, qui renvoient à l'idée de bouche, qui sont une source d'obligation parce qu'elles émanent d'un détenteur de la force. En moré, un autre mot utilisé pour désigner la loi, panga, est aussi utilisé pour désigner la force et la violence illégitime. Donc, si vous voulez, il y a d'une part un ordre de règles hétéronome qui échappe à la volonté humaine, et puis d'autres choses qui expriment une volonté humaine à un moment déterminé. Et entre les deux, il y a une catégorie intermédiaire qui est celle de prescriptions imputées à des ancêtres qui ont introduit une modification dans un rituel et acquis la même autorité que celui-ci. Alors, d'où la difficulté à l'époque contemporaine de traduire l'idée d'une loi devant s'imposer à tous car émanant de la volonté du peuple. Comment introduire cette notion dans un champ sémantique comme celui-là? Danuta Bagnou donne l'exemple d'une controverse qui a surgi récemment, enfin il y a quelques années, au Burkina Faso. Soucieux, alors au Burkina Faso, les dirigeants avaient la mauvaise habitude de changer la constitution très souvent, remarquez, ils n'ont qu'à prendre l'exemple de la France, sur ces, mais de façon à prolonger la possibilité pour les présidents de se faire réélire. Et soucieux d'affirmer l'intangibilité de la constitution face à l'habitude prise par ses dirigeants, des journalistes ont utilisé pour désigner la loi fondamentale, la constitution, le terme moré « tenku gri », qui désigne une forme particulièrement redoutée de l'instance terre et renvoie donc à la face sacrée de l'interdit. Donc le droit constitutionnel, au moins, était renvoyé. Et cet usage linguistique a été critiqué comme antidémocratique, car visant à soustraire à la volonté humaine le nombre de renouvellements possibles du mandat présidentiel. Vous voyez ici la difficulté dans des systèmes de pensée où ce qui fonde l'ordre, c'est d'abord l'observance des rituels, d'introduire notion de loi. Si je commence par un clin d'œil à l'Afrique, c'est que nous avons affaire, avec l'Afrique noire, à des civilisations au demeurant extrêmement diverses, mais qui, pour l'essentiel, sont organisées sur une base de ritualisme et non de légalisme. Et c'est, vous le savez, un trait commun avec la Chine, ou de ce qu'on nous apprend en tout cas de la Chine, où le ritualisme a joué, avec le confucianisme, un rôle toujours très important. Mais la pensée chinoise ne se résume pas au confucianisme, et il faut notamment tenir compte, dans le domaine juridique, de l'influence du taoïsme. Selon le taoïsme, la seule loi qui existe est la loi de la nature, enfin c'est une traduction très imparfaite, donc du Tao. Et l'univers est perçu comme un système autorégulé par un jeu de force, de création et de destruction, si bien que, aux yeux des taoïstes, ni les ordonnances royales, ni les rites n'ont véritablement de fondement moral. Et c'est dans le sillage du taoïsme que s'est développé en Chine, à l'époque des royaumes combattants, c'est-à-dire au 6e jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une époque de lutte féodale et de désordre, s'est développée une théorie politique qui, contrairement au confucianisme, confère une place exclusive au gouvernement par les lois, ce qu'on a appelé l'école des lois, le fakia. La doctrine des légistes a a été la base de la fondation du premier empire, la dynastie des Qi. Alors, soyez très indulgents sur mes prononciations, je ne suis absolument pas sinologue. Mais c'est ce personnage, alors je ne garantis pas non plus l'exactitude de la représentation, qui est considéré comme le véritable fondateur de l'Empire de Chine, qui va donc durer sous des formes, sous des avatars multiples, jusqu'au début du XXe siècle. Et cet empereur a laissé un mauvais souvenir parmi les Confucéens parce qu'il était un adversaire résolu de... Il était un de leurs adversaires résolus, et cette adversité s'est exprimée dans des autodafés, des écrits confucéens, au milieu desquels il a fait brûler d'ailleurs un bon nombre d'entre eux. Donc, il a gardé une certaine mauvaise image, mais il a aussi été le premier à organiser la Chine autour d'un pouvoir bureaucratique, centralisé, gouverné par des lois uniformes, dont on peut dire sans trop d'exagération qu'il est demeuré un modèle de gouvernement jusqu'à la période contemporaine. Les principaux théoriciens du légisme, Shang Yang, Shen Dao et surtout Han Sei Tse, sont aussi connus en Chine que Confucius ou Lao Tzu. Et leur œuvre a été analysée et connue en France grâce notamment aux travaux d'abord d'Henri Maspero, de Jean Escara, qui était dans l'entre-deux-guerres le grand juriste français sinologue, et dans la période contemporaine, de Jean Lévy, et surtout de Léon van der Mersch, dont l'ouvrage sur la formation du légisme constitue, pour ce chapitre, une source essentielle. Alors, je vous ai dit que le légisme est issu du taoïsme, et cette doctrine s'est donc constituée contre le confucianisme et son idéal d'un gouvernement par les hommes, fondé sur le ritualisme et la culture de la vertu. Mais dans la vision confucianiste, la clé du bon ordre se joue dans l'incorporation par les hommes de la place qu'il a à la leur et des comportements qui correspondent à cette place. C'est donc une forme de ritualisme, et la loi n'est applicable, n'a d'intérêt que pour ceux qui sont incapables d'incorporer en eux-mêmes ces règles du savoir-vivre. La loi concerne donc plutôt les barbares, c'est-à-dire soit les classes les plus basses de la société, soit ces populations qui vivent dans les franges de l'Empire. Et cette loi qui s'applique aux barbares, c'est essentiellement la loi pénale. Et ce qui est connu d'abord, ce qui est au centre de la réflexion politique chinoise, c'est la loi pénale. Et il n'y a pas en Chine de tradition, d'équivalent de la notion de loi civile. C'est un point très important pour comprendre l'histoire et le cheminement de la doctrine légiste. Alors, pour distinguer à grands traits légisme et légalisme, je vais me reporter ici à ce qu'en dit Léon van der Mersch dans ses écrits sur qui sont cités ici dans les études sinologiques. Il a un chapitre sur cette distinction et on peut en retenir les caractéristiques, les quatre traits principaux. Le premier, c'est que les rites agissent de l'extérieur. Autrement dit, le ritualisme repose sur l'idée, je cite ici van der Mersch, qu'il n'est pas possible d'insinuer des actes mauvais dans un moule de formes correctes si ces formes sont suffisamment prégnantes. Autrement dit, contrairement au légalisme, le ritualisme ne vise pas à peser directement sur l'autonomie de la volonté humaine, mais à contrôler la manière dont elle s'exprime. Une personne bien élevée ne va pas déverser sur vous des torrents d'injures, il trouvera les mots adaptés, courtois, pour vous faire savoir éventuellement à quel point il vous vomit. Mais il le dira dans des formes irréprochables et qui ne lèsent en rien l'harmonie sociale. Donc ça, c'est une première caractéristique, action de l'extérieur. Deuxième caractéristique, à l'idée de liberté, qui dans la tradition juridique occidentale est perçue comme une autonomie inconditionnée, répond dans le ritualisme l'idée de spontanéité. Et la spontanéité est une autonomie faite de l'intériorisation du conditionnement par les formes rituelles. Là aussi, il faut saisir cet écart et, pour aider à le comprendre, m'est venue à l'esprit une remarque de Nietzsche. Nietzsche écrit, je crois que c'est dans le Gai Savoir, « Avec une très forte voix dans la gorge, on est presque hors d'état de penser des choses subtiles. Si je braille, plus je hurle, moins je pense subtilement. » Et pour comprendre la compatibilité, donc si je me force à parler d'une voix posée, j'ai plus de chances de revenir dans l'orbe de la pensée. Et pour comprendre la compatibilité de ce conditionnement avec la spontanéité, on pourrait évoquer ici le geste du calligraphe, ou bien la versification en alexandrin, où l'on voit que non seulement le respect d'une forme hétéronome n'est pas incompatible avec la créativité, mais qu'il peut même la provoquer dans les deux sens du verbe « provoquer », à la fois comme origine et comme défi. Pensez ici, par exemple, à ce roman de Georges Perec, « La disparition », où l'auteur s'oblige à ne pas user de la voyelle « e ». Donc vous vous donnez cette norme extérieure et cela n'interdit pas quelque chose qui va être de l'ordre de la spontanéité. Troisième caractéristique qui permet de distinguer légalisme et ritualisme, l'idée de dignité humaine se retrouve dans les deux cultures. Mais dans le ritualisme, elle se traduit par le respect dû à autrui, quelle que soit sa position sociale. Alors je cite ici un extrait des mémoires sur les rites cités par Van der Merch. « Ce qui résulte de la discipline des attitudes par l'application des rites, c'est le respect, et c'est du respect que résulte le prestige. » Autrement dit, le respect qu'on inspire est à la mesure du respect qu'on témoigne. Il n'y a pas, écrit Van der Merch, de rite qui soit irrespectueux. Quel que soit le statut qu'il consacre, si bas que se situe ce statut dans la hiérarchie sociale. Et enfin, quatrième caractéristique, là où la dignité dans la culture juridique occidentale est conçue comme inhérente à la liberté et source de droits individuels, elle se traduit dans le ritualisme en termes de devoirs réciproques. Autrement dit, à la synonymie qui relie, nous en avons parlé la semaine dernière, le droit avec un D majuscule, le grand droit, pour parler comme Carbon